France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Une tempête de neige, des loups qui rôdent, menaçants comme il se doit, une cabane où il fait chaud et où l'on peut se réfugier, mais soudain des yétis qui vont et viennent. Le souvenir d'une boîte à sucre en fer blanc, une histoire pour enfants qui peut naître à la lecture d'un journal anglais, le Daily Telegraph en l'occurrence. Une histoire d'alpiniste autrichien, mais peu importe d'où surgit le récit, l'essentiel est qu'il soit fort, prenant et illustré dans ce cas précis. Carousel par Ruth Stegassi, émission qui célébrait la littérature pour enfants. Et tel était bien le cas le 16 juillet 1993 sur France Culture.
Carousel, le magazine des livres et des spectacles pour la jeunesse. Roulez jeunesse. Michael Morpurgo, bonjour, bonjour aussi François Place, vous êtes tous les deux avec moi aujourd'hui puisque vous êtes tous les deux lauréats d'un des prix les plus célèbres, les plus prestigieux des livres jeunesse, j'ai nommé le prix Sorcière qui est décerné par les libraires jeunesse, par l'association des libraires jeunesse. Alors pourquoi ces prix? Eh bien vous Michael Morpurgo, c'est pour Le Roi de la Forêt des Brumes qui est paru en lecture junior chez Gallimard, et vous François Place, c'est encore et toujours pour Les Derniers Géants, un des livres les plus remarqués de l'année dont nous avions parlé ensemble cette année. Mais, il se trouve qu'en plus, vous illustrates justement Le Roi de la Forêt des Brumes.
Oui, j'ai illustré le Roi de la Forêt des Brumes de Michael. Et d'ailleurs, il a eu aussi un prix, le prix Livre Hebdo, en décembre, pour ce bouquin-là.
Le cercle d'or des
libraires, Livre Hebdo.
Mais dites, vous êtes collectionneur de prix, comme il y en a qui collectionnent
pas de notre faute. C'est pas
de
notre faute. Si les gens, ils aiment bien, c'est bien.
Ah, évidemment. Bon, mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? C'est vous qui allez nous parler un petit peu de Michael Morpurgo et du Roi de la Forêt des Brumes, puisque vous êtes l'illustrateur. J'aimerais bien, aujourd'hui, on va prendre les choses un petit peu différemment. C'est l'illustrateur qui va nous dire comment il a lu un livre.
D'accord.
Pas mal, non?
D'accord.
Original.
D'accord, on y va. Eh bien, Le Roi de la Forêt des Brumes, c'est une histoire de voyage, c'est une histoire de mémoire aussi. C'est un jeune garçon qui vit en Chine. Son père est missionnaire. Sa mère est décédée assez tôt. Et donc, il vit en Chine.
Ça, c'est un peu un must, non?
Il vit
un roman d'aventure.
Oui, c'est...
La maman décédée assez tôt.
Ça se passe, oui, c'est vrai. Et ça se passe juste au moment de l'attaque japonaise en Chine. Donc, c'est juste avant la guerre 39-45. Donc, le dispensaire de son père est bombardé. Et pour mettre à l'abri son garçon, le père décide de l'envoyer en Inde, c'est-à-dire de faire un grand voyage à travers le Tibet. Et pour ça, il confie son jeune garçon à... il n'est pas moine, hein, c'est un Tibétain d'origine qui travaille au dispensaire, qui est une espèce de sage, quoi, hein, qui sert à la fois d'oncle... au jeune garçon, en même temps qu'il lui apprend la vie, de guide, etc. Donc le voyage en Inde, c'est déjà, ça pourrait déjà faire un beau livre, je pense. Il y aurait déjà de quoi faire entre la Chine et l'Inde, en passant par le Tibet. Il y a déjà pas mal de choses à raconter. Il faut partir de nuit, il faut éviter les bombardements. Il y a plein d'histoires, mais ça va se corser un petit peu parce que en traversant le Tibet, le jeune garçon se déguise. Et puis ils vont être plus ou moins reconnus dans une auberge, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que pour un Tibétain, il a quand même une stature peu commune. Et puis bien qu'il passe pour un sourd et muet, on se doute que il y a un problème. C'est un lama qui démasque l'histoire, qui dit ils sont obligés de partir en tout cas de nuit très rapidement d'une auberge. Et donc ils affrontent là vraiment la montagne. Ils montent dans la montagne. Il y a une tempête de neige et il y a les loups qui arrivent. Ils sont obligés de se réfugier dans une cabane Alors là, l'histoire vraiment commence en fait. Je sais pas s'il faut tout raconter. Donc ça va nous amener au pays des Yétis. Hein, ça c'est. Il faut dire quand même que quand on baptise un livre Le Roi de la Forêt des Brumes, je trouve ça quand même bien moi, parce que les brumes c'est ce qui cache, c'est ce qui transforme le monde. C'est quand on est dans la brume, on n'est pas ni dans le jour ni dans la nuit, on est ailleurs. On est déjà dans un état qui est plus vraiment le concret, qui est donc il y a des frontières là qui sont
c'est
assez.
C'est bien ce que vous dites là. Au début, vous étiez dans une description très imagée. Je trouve ça intéressant. Il a donné une description où on voyait vraiment, on avait le sentiment de voir des illustrations précisément.
Ah bah,
on avait des
images. C'est pour ça que je suis illustrateur.
Mais oui, peut-être finalement, ça expliquerait votre vocation.
Peut-être.
Et puis là, grâce à cette histoire de brume, vous arrivez à.
On arrive au pays des Yétis. Donc il y a aussi une histoire de, moi j'aime bien, parce que c'est une histoire d'emboîtage de mémoire, et quand je dis emboîtage, ça part d'une boîte, une boîte à sucre en fer blanc. Alors je sais pas, moi tout gamin, j'ai eu des grands-parents qui avaient ça, des boîtes à sucre en fer blanc, qui avaient des pots sur la cheminée qui étaient en dégradant, là, du plus grand vers le plus petit pour mettre du cacao, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était des pots qui parlaient du passé, parce que nous, on était déjà dans les emballages carton, Monoprix et tout ça. Mmh. Alors... toutes ces boîtes-là, c'est vrai, ça parle. Et dans la boîte, il y a une pipe, il y a une photo passée.
Un couteau.
Et un couteau.
Oui, c'est ça.
Et il est reconnu, le jeune garçon, il prend la place de quelqu'un d'autre. On ne va pas raconter tout le livre.
Non, hein,
on ne va pas raconter tout le livre. Mais il y a une histoire de mémoire, il y a une histoire de voyage, il y a une histoire de Yéti, et il y a une forêt des brumes. Et la forêt, quand même, c'est déjà magnifique. Et la forêt des brumes, alors là...
Michael Morpurgo, vous avez reconnu votre histoire, votre livre ?
Ah oui, je crois que François a raconté l'histoire mieux que le livre, vraiment. C'est super, ça.
C'est bien la peine de faire des livres.
Non, mais pour un illustrateur, de comprendre, c'est très important pour un illustrateur de comprendre le livre avec le détail qu'il a utilisé il y a 2 ou 3 minutes. Parce que sans ça, et j'ai beaucoup d'expérience de ça, des illustrateurs qui... ont des idées d'un livre et on peut le voir dans les illustrations.
Ils ont leur interprétation et n'est pas nécessairement celle que
c'est
vous
voulez donner. C'est question d'étudier un peu le livre et de penser et de rêver un peu pour créer les images que François a créées. Et ça, c'est très rare. C'est pas normal du tout. Il n'est pas normal.
Ici, complètement. Mais je crois quand on prend un livre à illustrer, en fait, on accompagne l'histoire, on le lit. Alors, une fois qu'on a lu l'histoire, il faut l'accompagner à son tour, il faut la raconter à son tour en images. Mais c'est vrai aussi, c'est pain béni, quoi. On va pas se lancer des compliments par-dessus la table
comme ça. Mais non, mais
c'est pain béni de tomber sur une belle histoire aussi.
C'est presque comme un metteur en scène dans le cinéma, vraiment. Il faut que.
Oui, je pensais à un traducteur aussi. C'est un peu la traduction.
C'est ça. Il faut voir les images.
Un travail d'interprétation.
Oui.
Alors, Michael Morpurgo, il y a une chose que j'aime beaucoup chez vous, outre les livres que vous écrivez, c'est la façon dont vous racontez comment les histoires vous sont venues. J'aime beaucoup ça. Alors, racontez-nous comment l'histoire du Roi de la Forêt des Brumes est arrivée pour vous. Ensuite, si on a le temps, on vous demandera aussi de raconter l'histoire d'Agnès, qui est un autre livre que j'aime énormément de vous.
Voilà, mais le Roi de la Forêt des Brumes, c'est le commencement, c'est un peu ordinaire, vraiment. J'étais en train de lire un journal... Daily Telegraph, en Angleterre. Et j'ai trouvé, c'est sur un train, et je lis un article on dit grimpeur, quelqu'un qui grimpe dans les montagnes.
Un alpiniste.
Alpiniste, voilà, pardon. Un alpiniste autrichien qui a visité les Himalayas, on dit, voilà. Et voilà, il dit, ce monsieur, il est très connu, et j'en suis sûr, le moment que j'ai lu l'article, que c'était quelque chose de sérieux. Il n'essaye pas à trouver quelque chose de l'argent ou de popularité ou choses comme ça avec ça. Il dit qu'un matin, il se réveille après un grand orage de 3 jours. Il sort de sa tente, il voit quelque chose dans la neige. Et pour commencer, parce qu'il a les yeux un peu... Il ne peut pas voir très
embrumé,
bien.
Embrumé, justement.
Voilà, c'est ça. Et il croit à ce temps c'était un ours des Himalayas. Mais il a bougé un peu et soudainement, la bête a... commencé à grandir, c'est agrandir, c'est quelque chose. Il a dit dans le journal, c'était un peu comme un cauchemar, parce que une bête qui a été assez petite commence à grandir. Voilà. Il était maintenant sur deux pattes et énorme, à peu près 8 ou 9 pieds d'hauteur.
Oui, ouais. Voilà.
Et rouge, avec un poil très long. Et voilà. À ce moment, il tourne pour parler à ses amis dans la tente. Et le moment qu'il tourne, la bête commence à courir. Très vite, très vite.
Vers lui ou à s'éloigner?
Elle
s'enfuit.
Voilà. Et il est le seul homme qui a vu cette bête.
Cet animal.
Voilà. Problème, c'est qu'à ce temps-là, il n'a pas beaucoup mangé. Et il pense qu'il a peut-être vu quelque chose qu'il n'a pas vu.
C'est une hallucination.
Voilà, exactement. Mais il a pensé beaucoup. Il a trouvé après quelque chose dans la neige qui confirme que c'était quelque chose. Et en réfléchissant, il pensait qu'il a vu pour la première fois un Yeti. Et c'est un homme très sérieux. C'est pas vraiment quelqu'un qui va attirer
oui, l'attention.
Non, pas du tout comme ça. Et après ça, j'ai fait beaucoup de recherches dans les livres et j'ai trouvé beaucoup d'idiots qui ont pris les photos dans la neige et qui ont créé des fantômes, des Yeti, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé assez de gens sérieux qui ont raconté des histoires de Yeti. Et c'est à ce temps-là que j'ai commencé à penser que peut-être, vraiment, ils peuvent exister, ces bêtes. Et
ces
à ce temps-là, j'ai lu un article dans un journal scientifique des États-Unis. Et c'est très intéressant parce que c'est un professeur qui dit peut-être. Le problème avec la bête humaine, c'est que nous sommes dans nos mers seulement pour 9 mois. Et que vraiment, nous ne sommes pas très bien formés à 9 mois. Et il a calculé, cet homme, que si on reste dans nos mers jusqu'à 14 mois, nous avons les intelligences, voilà. Mieux.
Beaucoup plus développé.
Voilà, c'est ça.
Et vous pensez que si on restait 14 mois dans le ventre de notre mère, on verrait tous des yétis, c'est ça?
Mais non, c'est pas exactement ça. Non, c'est simplement que il a dit que peut-être, il a dit ça dans cet article, il a écrit que peut-être il y avait une bête humaine qui n'existe plus, qui est le vrai Homo sapiens, en latin, et que nous sommes, une sorte de quelque chose qui ne...
Une branche ratée, quoi.
Oui, c'est ça.
Une branche,
ouais. Mais c'est une branche qui n'est pas très bien, qui a une maladie, qui a transformé...
Oui, un peu dégénéré.
Exactement, ouais. Comme ça. Voilà, j'ai pensé avec ces deux histoires, une un peu scientifique et une un peu de ce journal, et voilà.
Vous connaissiez toute cette histoire-là?
Non, je ne connaissais pas. Mais je trouve que déjà 9 mois, c'est long.
Oui, surtout pour la mère aussi.
C'est ça, oui.
Mais ça, je ne peux pas dire.
Je 14 mois. Là.
N'est-ce pas que c'est formidable quand il y a...
Oui, oui.
Mais j'étais frappée en l'écoutant de la parenté avec les derniers géants, justement.
Parce que les derniers géants, c'est aussi l'histoire que j'avais... Imaginez, d'ailleurs, avant de lire Le Roi de la Forêt des Brumes, ça vient peut-être aussi de tout cet imaginaire, des récits de voyage, et puis de rencontrer. Mais tout le temps, on rencontre dans les journaux ou dans les livres des histoires de mondes perdus. C'est quand même fou, quoi, de dire. Et alors, comme aujourd'hui, on a une vision satellitaire de la Terre, qu'on a une vision presque photographique, mètre par mètre, on est en manque de ces mondes-là, quoi. On est en manque de ces histoires où, finalement, il y avait des cartes blanches, il y avait des...
Mais les géographes disent que les cartes blanches se multiplient sur la Terre. Là. en ce moment,
ah
depuis
bon
quelques années.
C'est tant mieux, peut-être.
Ben, oui et non, c'est moins gai, puisque maintenant c'est à cause des guerres, des famines, de tous les endroits où on ne peut plus aller. Mais c'est vrai, ce que vous dites, qu'on a perdu les mondes perdus, et on est en train de les retrouver d'une manière qui est beaucoup moins belle. Et...
C'est-à-dire que peut-être l'imagerie qu'on a de la Terre en satellite, maintenant, c'est presque de l'imagerie médicale. C'est quelque chose qui ressemble au scanner ou des choses comme ça, et c'est justement parce qu'on est à son chevet. Peut-être parce qu'on est un peu... Donc on a perdu toute une part d'imaginaire et on est plutôt penché sur l'image de la Terre d'une façon inquiète, un peu comme ça, scientifique, inquiète, à se demander qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'on avait avant peut-être des cartes...
Et vous commenciez comme un dentiste, par une molaire sculptée.
Il faut toujours aller du plus petit au plus grand.
C'était la découverte d'une énorme molaire entièrement sculptée de dessin.
Moi je pensais aux dents de cachalot sculptées qu'on trouvait, on trouve ça chez les antiquaires maintenant, mais moi j'étais fasciné par la lecture de Moby Dick, j'ai vu un film tout petit... avec une classe comme ça quand j'étais tout gamin, ce film de Moby Dick, ça m'est resté longtemps, cette histoire de baleine blanche aussi, pas seulement de chasse au cachalot, mais du fait qu'on cherche quelque chose qu'on trouve jamais. Et c'est vrai que mais c'est pareil pour le roi de la forêt des brumes, en fait la mémoire tourne autour d'un objet. Oui. Moi c'est une dent qui est complètement couverte de dessins, lui c'est une boîte, c'est encore plus imagé sur le fait qu'on a des mémoires emboîtées et que
et
quand
Michael
on ouvre
Morpurgo,
quelque chose,
oui. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont il tresse des histoires, des petits faits divers comme ça, des petits entrefilets de journaux pour en faire des romans qui sont étonnants, enfin très saisissants, très.
Mais je trouve cette histoire de boîte aussi, il y a pas très longtemps, dans des journaux. Je sais, aux États-Unis, on a ouvert une boîte qui avait 100 ans d'âge, par exemple, où il y avait des documents. Alors, on s'attend toujours à des révélations, à des choses extraordinaires.
Et alors, il y avait quoi?
Je m'en rappelle plus, je crois que c'était assez décevant. C'était assez décevant, mais il faut lire, c'est pour ça qu'il faut lire Le Roi de la Forêt. C'est pour ça que la fiction, c'est toujours un peu plus.
Mais c'est l'inconnu vraiment qui fascine les gens, les enfants aussi. Et c'est, je crois que tous les deux livres, le tien et le mien c'est aussi le tien, si je peux dire ça, ils ont quelque chose de très sérieux au fond. Avec les géants, on sait très bien que c'est vraiment une tragédie ce qui se passe aux géants. Et moi, j'ai arrêté mon histoire avec peut-être la même sorte de tristesse, parce que le garçon, après qu'il a vécu avec les Yétis, il revient dans le monde des humains. Il ne peut pas vivre avec les humains parce qu'il les trouve impossibles. Il cherche toujours la vie simple et la vérité ou quelque chose comme ça de la vie des Yétis. Il y a une sorte...
Il y a une histoire très belle dans Le Roi de la Forêt des Brumes, c'est que son oncle, le Tibétain, lui fait un manteau d'arlequin, fait un manteau cousu de différents tissus. Et quand il arrive au collège, les enfants arrachent les tissus, lui détruisent son manteau. Et ça, c'est vraiment son manteau, c'était le signe de son voyage, le signe qu'il avait accumulé d'autres expériences, rencontré des gens, que sur lui, sur sa peau, il pouvait porter une histoire et que les autres ne l'ont pas compris, ils n'ont pas compris cette différence, ils ont traité ça comme on peut traiter parfois les tziganes ou les gens qui sont bariolés, qui portent justement sur leurs vêtements la trace de plein de voyages, de plein de choses différentes. Ça c'est un passage que je trouve magnifique dans Le Roi de la Forêt des Brumes, parce que l'histoire de ce manteau qui est déchiré, et puis lui, c'est toute son enfance qu'on déchire, c'est tout ce qu'il a vécu avant.
Michael Morpurgo, j'étais sûre qu'on n'aurait pas le temps de parler d'Anya, qui est pourtant un très beau livre aussi. Mais je voudrais que vous nous disiez deux mots des enfants, parce que j'ai lu dans une interview dans un journal anglais que vous organisiez des séjours pour les enfants. Je trouve ça étonnant, des séjours dans une ferme.
Oui, c'est ça. Oui. J'ai notre société a deux fermes maintenant, une ferme dans le Devon et une ferme dans le Pays de Galles. Et ce qui se passe, c'est qu'on invite des enfants des grandes villes, de Londres, de Birmingham, de Bristol, même de Paris, si peut-être, on ne sait pas, voilà, pourquoi pas. Mais ils viennent...
Avis aux amateurs.
Oh oui, pour travailler. C'est vraiment pour ça, parce que moi, je trouve que c'est très, très important que les enfants ont un contact réel, on dit réel,
oui,
actuel, avec la vie de campagne, mais pas vraiment simplement pour visiter, c'est vraiment pour contribuer leur travail, leurs efforts pour les animaux, pour la ferme. Et c'est avec ça qu'ils ont, que peut-être ils peuvent apprendre une sens de valeur de son propre travail. Et ça, c'est très important pour les enfants. Je ne sais pas en France, mais nous avons vraiment des grands problèmes avec des enfants de grandes villes en Angleterre. Question de familles séparées, des problèmes sociaux et choses comme ça. Et pour quelques-uns, c'est vraiment la première fois qu'ils réussissent à quelque chose. Et ça, c'est très important.
Et en prime, une fois par semaine, vous leur racontez des histoires et on aura compris que les histoires de Michael Morpurgo, c'est vraiment extraordinaire. Je rappelle donc Le Roi de la Forêt des Brumes en lecture junior Gallimard, à y rajouter Anya, toujours en lecture junior Gallimard, et puis bien entendu Les Derniers Géants de François Place. Je vous remercie tous les deux. Carousel était signé Ruth Stegassi, la réalisation Pascal Rayet et Cyril Bécu.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 juillet 1993.